Évangile de Luc, au chapitre 15. Luc 15, au verset 1. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant : « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole : « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le-lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
Avec Mathieu, on veut effectivement vous souhaiter la bienvenue. Je vais m'associer à son mot de bienvenue. En approchant de la période de l'Avent, on va faire une petite pause dans notre série dans la lettre aux Romains. Et la fin du chapitre 8 semblait un bon moment pour avoir cette coupure. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous dites, on parle de quoi ? Ne vous inquiétez pas, c'est les habitués qui ont fait une série dans cette lettre-là. Et on va faire tout simplement... la méditation de ce passage qui est hors série, mais qui je trouve va bien avec le baptême auquel on a assisté. On a tous nos problèmes. Moi, j'ai un problème avec mon portefeuille. J'égare mon portefeuille facilement. Pas plus tard que la semaine dernière, en étant né à la gare de Bruxelles en voiture, j'ai égaré mon portefeuille dans le coffre, je ne sais toujours pas exactement comment j'ai fait, mais je dois normalement le retrouver demain. Un jour, je me souviens, en mettant une de mes filles dans la voiture, pour pouvoir bien l'installer dans son fauteuil d'enfant, eh bien, le portefeuille que j'avais dans la main, je l'ai mis Je l'entends. Sur le toit de la voiture, oui. Exactement. Et c'est seulement au moment où je roule sur l'autoroute que je vois une forme noire dans le rétroviseur et je réalise ce qui s'est passé. Je suis retourné en arrière et j'ai retrouvé mon portefeuille après que quelques voitures aient passé dessus. Mais probablement la perte de portefeuille la plus inédite pour moi, c'est ce jour où tout se passait bien. Et tout à coup, je reçois un message, on a retrouvé votre portefeuille. Et là, il y a plusieurs effets. Le premier effet, c'est quoi ? J'avais égaré mon portefeuille. Le deuxième effet, c'est ouf, ils l'ont retrouvé. Le troisième effet, c'est est-ce que tout est dedans ? Et finalement, en arrivant aux objets trouvés de la gare Montparnasse, j'ai pu réaliser que tout était retrouvé. Ici, on a une série d'objets précieux, ou plutôt quelques objets, un animal, un objet, une personne qui est perdue. Et ce qui est perdu est retrouvé, et il y a une joie auquel d'autres doivent être associés. Et le plan que je vous suggère pour réfléchir à ce passage, c'est trois histoires qui nous invitent à la joie, et un père compatissant qui invite ses deux fils à rentrer. Trois histoires qui nous invitent à la joie, un père compatissant qui invite ses deux fils à entrer. Contexte de ces histoires, c'est un repas, et comme souvent dans l'évangile de Luc, les repas avec Jésus sont révélateurs. Alors révélateurs de quoi cette fois-ci ? Eh bien cette fois-ci, on le voit attablé avec des collecteurs d'impôts, des pêcheurs notoires, autrement dit des personnes peu fréquentables, peu recommandables. Et il nous est dit que le gratin religieux, les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient, ils assistent à la scène, et leur commentaire c'est « cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux ». Et on assiste là à un double mouvement. Il y a d'un côté les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires qui s'approchent de Jésus pour l'écouter, pour l'entendre, et d'un autre on a le mouvement de recul de ceux qui observent tout cela et qui se disent « mais qu'est-ce qu'il fait avec eux ?» Et on pourrait tenter de prendre les religieux de haut en les traitant d'intolérants, de moralisateurs. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer un autre repas, une autre invitation. Une invitation qui vous concerne. Alors je suis d'accord, mon exemple il est un peu farfelu, mais imaginez que vous êtes invité par une personne dans un restaurant chic ici à Paris. Et vous avez quand même des options, vous avez trois options. Vous avez trois personnes qui, aujourd'hui, dans notre société, sont peu recommandables. Vous pouvez choisir entre Donald Trump, Vladimir Poutine ou Jean-Marie Le Pen. Et dans les exemples, choisissez la personne avec qui vous êtes la plus inconfortable. La personne vous invite et vous êtes là, attablé au restaurant. Vous regardez autour de vous, les autres clients vous ont déjà repéré. Ils sont en train de pianoter sur leur portable. Et vous savez que les réseaux sociaux sont en train de s'enflammer. Les premiers journalistes arrivent et ils vont prendre des photos. Vous allez faire la une des journaux. Alors comment vous vous sentez ? Comment vous vivez le repas ? Décontracté ? Vous allez prendre encore un café ? À la fin du repas, vous allez rester, prolonger les échanges ? Ici, on a Jésus qui vit très bien un repas avec des personnes qui ont une très mauvaise réputation, plus mauvaise réputation dans la ville. Et il n'est pas gêné, il n'est pas gêné. Et mieux encore, en réponse à la critique, il lance trois histoires qui invitent à la joie, au fait de se réjouir. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille ? Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça ? Alors on va voir trois histoires qui nous invitent à la joie. Et la première histoire, c'est celle d'un berger qui a 100 brebis et qui perd une brebis, qui la cherche et qui la retrouve. Et là, trois fois, il est question de joie. Joie au moment où il retrouve la brebis, joie au moment où il veut associer cette retrouvaille avec d'autres, le fait de l'avoir retrouvée. Et la joie, la troisième fois, elle est mentionnée lorsque Jésus dévoile que cette brebis, elle représente un pécheur qui se repent. Deuxième histoire, celle d'une femme qui a 10 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est l'équivalent d'une journée de travail. Et elle en perd une, justement. Elle se met à rechercher cette pièce. Elle allume une lampe, elle balaye toute sa maison, elle cherche dans chaque recoin, et elle retrouve cette pièce. Et dans sa joie, elle veut associer ses voisines, ses amis, pour dire l'émerveillement, la reconnaissance d'avoir retrouvé cette pièce. Là encore, la joie est mentionnée aussi dans l'équivalence. Cette pièce, elle représente un pécheur qui se repent. Troisième histoire, c'est l'histoire d'un père qui a deux fils. Et l'un de ses fils vient vers lui pour demander sa part d'héritage. Et il veut vivre la grande vie au loin, dans un autre pays. Il va obtenir cette part, il dépense tout, mais il va se retrouver au fond du trou. Sentiment d'être perdu, il va réaliser cela et désirer rentrer chez son père. Son père, qui guettait son retour, va aller à sa rencontre et l'accueillir à la maison. Et si on avait manqué la leçon, le père dans l'histoire nous dit deux fois essentiellement la même chose. À son fils et au serviteur, il dit « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » À son fils aîné qui rentre des champs, il dit « Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Trois histoires avec la même trame. Quelque chose de précieux où quelqu'un est perdu. Cette personne ou cette chose est recherchée avec détermination, elle est retrouvée. Et dans le fait de retrouver ce qui était perdu, il y a la joie, une joie à laquelle d'autres doivent être associés, une invitation à la joie. Dans ces histoires, Dieu est associé d'abord au berger dans la première histoire, à la femme, et ensuite à ce père. Et qu'est-ce qu'on doit retirer de ces histoires? Qu'est-ce qu'on doit retirer de ces histoires? À l'époque et aujourd'hui encore, manger avec quelqu'un, ça pouvait signifier s'associer à cette personne. Mais remarquez qu'en mangeant avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts, Jésus n'est pas en train de relativiser le mal qu'ils ont commis. Non, Jésus, on peut même dire que par sa venue, il va encourager une réflexion, il va encourager une remise en question. Et à chaque fois dans l'histoire, il est question d'une repentance, d'une prise de conscience qui les amène à vouloir changer, à reconnaître qu'ils étaient perdus. Dans un sens, Jésus se présente comme étant très inclusif et très intolérant. Comment est-ce qu'il peut être les deux à la fois? Inclusif, intolérant, on a envie de les séparer. Mais il est très inclusif dans le fait qu'il peut accueillir des personnes avec un lourd passé, des criminels, des collecteurs d'impôts, des prostituées, des gens qui ont commis divers crimes. Très inclusif, mais très intolérant aussi. Parce qu'il ne met pas seulement en évidence des petits péchés, des grands péchés, je veux dire, comme des meurtres, des viols, des choses graves. Il est très intolérant vis-à-vis du péché sous ses formes les plus subtil, l'arrogance, l'hypocrisie, l'orgueil. Il est à la fois très inclusif et très intolérant. Inclusif pour ceux qui ont un passé lourd, intolérant avec le péché sous toutes ses formes. La deuxième chose que ces histoires font ressortir, c'est la détermination de Dieu à rechercher ceux qui sont perdus. Ça dit son amour, ça dit sa compassion, son désir de retrouver ceux qui sont perdus. On l'entend dans ces histoires de Jésus, mais on l'a entendu tout à l'heure dans l'histoire de Philippe. Il y a la détermination de Dieu à trouver ceux qui sont perdus, les appeler à lui. Et on devrait s'attendre à des témoignages qui disent cette grâce-là, cette bienveillance-là. On devrait s'attendre à des moments de joie lorsque quelqu'un est perdu et retrouvé. On entend dire parfois que Dieu se cache ou qu'on ne sait pas où il est, on n'a aucune preuve de son existence. Quelqu'un dit « pas assez de preuves de l'existence de Dieu ». Mais ces trois histoires nous disent que Dieu est à la recherche de ceux qui sont perdus. Il ne se cache pas, il est à la recherche de ceux qui sont perdus. Et la troisième chose qui ressort de ces histoires, c'est que Dieu aime se réjouir et il aime faire la fête. Il aime faire la fête. C'est ce qu'on doit entendre dans les paroles du Père quand il dit « Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le plus naturel, le plus normal dans la perspective de Dieu, c'est de vouloir se réjouir quand quelqu'un était perdu et qu'il est retrouvé. Et dans un sens, on devrait s'attendre à cette joie. On devrait avoir cet enthousiasme prompt pour des personnes comme Philippe, comme d'autres, lorsqu'elles sont retrouvées. Collectivement, profondément, il y a cette joie, une invitation à la joie. Ça contraste, et vous l'avez peut-être vu au début, ça contraste avec ces murmures qu'on a chez les spécialistes de la loi, chez les pharisiens, qui murmurent quand Jésus s'approche, à une joie qui doit retentir, une joie qui retentit communautairement, collectivement. On passe ensuite à un père compatissant qui invite ses deux fils à entrer. La troisième histoire, elle nous fait entrer dans plus de détails. Et on voit ici une histoire qu'on a souvent résumée par la parabole du fils prodigue. Vous l'avez peut-être entendu sous cette forme-là. On pense peut-être à la peinture de Rembrandt, ou on pense peut-être aux paroles de la chanson « Les murs de poussière » de Cabrel, qui semble faire allusion à ce fils prodigue. Il rêvait d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'une autre manière, dans un autre milieu. Et la fin de la chanson parle de ce retour du fils qui revient vers son père. Mais dire de cette histoire que c'est celle du fils prodigue, c'est très réducteur quand on pense à ce qui est au cœur de cette histoire. Ce qui est au cœur de cette histoire, c'est un père compatissant vis-à-vis de deux fils qu'il invite à rentrer. Et je vous invite à écouter à nouveau ou revivre cette histoire. L'histoire commence avec le fils cadet qui vient vers son père et qui lui dit « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Vous imaginez le choc de cette question ? Vous imaginez quand quelqu'un, un de vos enfants, vient vers vous et vous parle d'une assurance vie ou vous parle de cet héritage qu'il veut ? Ce serait déjà un choc dans notre culture, mais dans une culture comme celle-là où un honneur doit être accordé aux aînés, c'est un choc encore plus retentissant. C'est comme s'il lui disait « je préférerais que tu sois mort. Je veux tes affaires, mais toi je ne veux plus te voir. » C'est ça. Parce qu'il veut les affaires, il veut les biens de son père, mais il ne veut pas les vivre en sa présence. Il veut être au plus loin, il veut partir. Quand on parle en termes de péché, qu'est-ce qu'on a à l'esprit ? Le frère aîné dans cette histoire, quand il pense au péché, il pense à, et il le dit, coucher avec des prostituées, dilapider les biens de son père. Et c'est vrai, ce sont des péchés. Mais si on devait regarder à l'essence du péché dans cette histoire, c'est précisément le fait de dire « Moi, je veux que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin dans cette vie. » Mais je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je veux qu'il me donne une vie réussie et tout ce dont j'ai envie, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Et si vous étiez dans la peau du père qui entend cette demande, qu'est-ce que vous feriez ? Vous imaginez si un de vos enfants venait vous demander sa part d'héritage ? Est-ce que vous lui donnez cette part d'héritage ? Ici encore, on voit la largesse de l'amour du Père qui est prêt à donner cette part d'héritage pour un fils qui veut vivre en toute indépendance au loin. Il vit loin de son Père, il vit la vie qu'il voulait mener. Mais le premier coup dur, c'est qu'il vient au bout de ses ressources. Plus de ressources, plus de quoi vivre cette grande vie. Mais en deuxième coup dur, c'est la famine. Et là, on commence à découvrir le paradoxe d'une vie qui veut se vivre de manière indépendante par rapport à Dieu. Alors qu'il partait pour être indépendant, il va devenir très dépendant. Il se retrouve à désirer manger ce que les porcs mangent. Il doit nourrir des porcs pour un juif. Il se retrouve dans la peau de quelqu'un qui doit nourrir des porcs, mais qui aimerait se nourrir de ce que les porcs mangent. Et on peut imaginer qu'il y a une certaine injustice dans ce qui se passe. Lui, il n'est même pas payé suffisamment pour manger autant que les porcs qu'il nourrit. Et c'est là qu'il y a une première prise de conscience. Il réalise qu'il avait avant, il réalise que les serviteurs vivaient, et il se dit que même dans la peau d'un serviteur, là-bas, il serait mieux. Et c'est là qu'il décide de rentrer à la maison. Mais remarquez qu'en réfléchissant à son retour, en réfléchissant à une conversation difficile qu'il aura avec son père, qu'il a insulté, il réfléchit à son scénario, il réfléchit à son script. Qu'est-ce qu'il va lui dire à son père ? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est intéressant de prendre un peu de recul. Il a raison, n'est-ce pas, de se dire qu'il a insulté son père, qu'il a péché contre son père, mais aussi contre Dieu, contre le ciel, comme il le dit. Il a raison de se placer dans la peau de l'offenseur, mais est-ce qu'il a raison de se dire que ce sera en adoptant, en prenant la position d'un esclave, qu'il va pouvoir être ramené dans le foyer? Est-ce qu'il a raison de penser ça? Combien de personnes autour de nous se disent que c'est de cette façon qu'on s'approche de Dieu, qu'on est accepté par Dieu? Combien de personnes autour de nous se disent que la foi chrétienne, c'est ça en fait? S'il faut venir à Dieu, il va falloir en baver, il va falloir vivre une vie droite, à la sueur de son front, bien vivre une vie bien droite, bien morale, en espérant que le Père va nous accepter, comme payer sa dette. Et est-ce qu'on imagine Dieu en train de dire, ok, tu vas travailler, mais tu vas travailler dur, tu vas montrer ce que tu as dans le ventre, tu vas montrer de quoi tu es capable, et alors, peut-être qu'on verra. Est-ce que vous l'imaginez comme ça, le Père ? C'est pas du tout ça. Alors qu'il est encore loin, alors que son Père guette son retour, il va courir dans sa direction. Il va aller vers lui. Le fils sort son script. « Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il n'a même pas le temps de terminer sa phrase. Son père lui coupe la parole pour dire au serviteur, « Allez chercher le plus beau vêtement, allez chercher une bague, allez chercher des sandales, préparez le veau gras. » Parce qu'il ne rentrera pas dans la condition d'un esclave, il rentrera comme un fils avec tous les honneurs. Le veau gras, c'est l'équivalent d'un resto dans lequel vous allez rentrer une voire deux fois dans toute votre vie, parce qu'il faut faire la fête. Parce qu'il faut faire la fête, ce fils qui était perdu et retrouvé. Il est temps de passer au deuxième fils. Le fils aîné, il rentre des champs, il entend l'effervescence, il entend les bruits, il demande à un serviteur ce qui se passe. Remarquez qu'il ne parle pas à son père, il ne va pas vers son père, il demande à un serviteur avant d'entrer, qu'est-ce qui se passe là? Le serviteur lui explique que son frère est revenu, que le veau gras était tué. Et comment est-ce qu'il réagit? Il se met en colère. Il est en colère. Et il refuse de rentrer dans la maison. Et ça aussi, c'est une insulte au père. Ça aussi, c'est une insulte au père. Et comme avec le cadet, le père sort à sa rencontre pour l'inviter à rentrer. Et c'est là qu'on voit ce qui sort du cœur, ce qu'il avait dans le cœur. « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Vous entendez les « jamais » ?« Jamais j'ai désobéi, jamais tu m'as donné un chevreau. » Et là on réalise, comme un commentateur le dit, que lui aussi a des désirs secrets et refoulés. Lui aussi voulait les biens du Père pour en profiter avec ses amis. Remarquez, avec ses amis. Mais il ne s'y prend pas de la même façon. Lui, il ne s'y prend pas en vivant une vie sans morale. Il s'y prend en vivant une vie très morale. À son service, ce sont ses termes, à son service. Autrement dit, il se voit dans la peau d'un serviteur, d'un esclave, qui fait tout ce qu'il faut pour obtenir les biens de son père, par une vie, tout ce qu'il y a de plus moral. Et le principe est le suivant, si je vis une vie qui est exemplaire, si j'obéis à tout ce qu'il me demande de faire, Dieu me le rendra. Dieu me le doit. Dieu me le doit. On le sent amer, il a perdu la joie. La relation avec son père. Il le voit de plus en plus comme un maître injuste et lui-même, il se voit comme un esclave maltraité. Et comment est-ce que son père lui répond ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Vous entendez les contrastes avec les jamais du fils? Toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que cette histoire, elle veut mettre en évidence? J'ai bientôt fini. Je vous ai fait peur avec le temps, mais j'ai bientôt fini. Cette histoire, elle nous amène à réfléchir, chacun d'entre nous, parce qu'elle s'adresse à tous, cette histoire, à tous. Jésus raconte une histoire alors qu'il a deux groupes de personnes que tout semblait différencier, des personnes comme des collecteurs d'impôts, des pécheurs notoires, des religieux. En vivant une vie immorale, en vivant une vie très morale, tous sont concernés par l'histoire de Jésus. Malgré les différences dans l'histoire, il y a des ressemblances. Les deux fils connaissent une rupture dans la relation avec le Père. Les deux sont invités par le Père à entrer. Et à travers elle, Jésus nous dit qu'on peut se couper de la relation avec le Père de deux façons différentes. On peut se couper de la relation en voulant vivre sans lui, sans référence à lui, sans Dieu ni morale. Mais on peut se couper de lui en vivant vis-à-vis de Dieu comme si on devait gagner les biens par une obéissance exemplaire, par une vie très morale. Mais qu'est-ce qui est déterminant dans cette histoire? Eh bien, c'est le fait de se reconnaître dans cette histoire, justement. C'est le fait de se reconnaître. Est-ce qu'on arrive à se reconnaître? J'ai mentionné Rembrandt et la peinture du fils prodigue. Il a fait une autre peinture sur cette histoire où il représente le fils cadet qui mène la grande vie dans une maison de prostituées. Et il s'est dessiné dans la peau du fils cadet avec sa femme Saskia. Je ne sais pas jusqu'où il est allé dans sa remise en question, je ne sais pas jusqu'où il est allé dans sa repentance. Mais la question est bonne à se poser. Est-ce qu'on arrive à se reconnaître dans l'histoire? Est-ce qu'on arrive à s'y retrouver? Dans la peau d'un fils qui veut les biens du père, mais sans référence à lui? Ou dans la peau d'un fils très moral, mais qui le vit comme un esclavage, comme un moyen d'obtenir ses biens, par une vie morale? Et il y a probablement un peu des deux en chacun d'entre nous. Mais ce qui doit nous encourager dans cette histoire, c'est que Dieu est déterminé à retrouver ceux qui sont perdus. Il est déterminé à nous inviter à entrer dans sa présence, déterminé par son amour, et Jésus l'incarne, un amour qui va à la rencontre de chacun. Je vous invite à prier.